L'After Foot, Gilbert Bribois.
Eric Dimeco est là, Jérôme Rotten, Daniel Riolo jusqu'à minuit. Donc dans l'After, vous le savez, depuis le début de la semaine, on s'amuse avec les rivalités entre clubs. Alors on y allait un peu plus loin dans l'After, plutôt que de dire machin, aime pas machin et truc, aime bidule. On pose la question aux supporters, on l'a fait avec par exemple des Marseillais, des Parisiens ces derniers jours, mais aussi avec les clubs européens. Ok, vous n'aimez pas tel club, mais enfin, il y a quand même un petit truc que vous jalousez chez l'autre, quoi. Voilà, qu'est-ce que tu prendrais bien chez ton adversaire qui te ferait bien plaisir? Alors, il y a quelques Parisiens qui nous ont dit, bah, quand même, l'ambiance du Vélodrome, c'est pas mal. Voilà, les Marseillais avaient plus de mal à trouver des trucs. Hein,
hein? Les Marseillais?
Ouais. Ouais,
plus... oh, ils en ont.
Bah, Eric, est-ce qu'il y a un truc que t'envies un peu au PSG, toi?
Ah, c'est une question de piège, tu me laisses une demi-heure?
Non, mais. Ça doit venir spontanément, normalement.
Ah ouais?
Ouais.
Pas que maintenant, ça peut être un joueur dans l'histoire.
Dans l'histoire,
ça peut être un truc, je sais pas, j'en sais rien.
Ouais, mais ça me vient pas tout de suite, les gars.
Mais c'est bien, c'est normal.
Non, mais je vais trouver. Objectif.
Il y avait quelques petits trucs quand même. Alors on l'a fait un peu partout, maintenant on va aller en Amérique du Sud, parce que quand même, l'Amérique du Sud pour ça c'est quand même le terrain idéal, parce que là il y a des histoires de foot extraordinaires qui s'inscrivent dans le développement des pays, dans les conflits, dans les villes, enfin bref, c'est assez dingue. On a avec nous deux de nos éminents confrères de l'excellent site Lucarne Opposée qui sont là, Nicolas Cougaud. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir, messieurs.
Salut.
Et
salut.
Simon Balachev. Simon, bonsoir.
Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous.
Alors, Lucarne Opposée, c'est si on aime le football d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment c'est ce qu'il faut suivre. Explique un peu, Nicolas, ce que vous faites.
Eh bien, tu l'as dit, le football d'ailleurs, en fait, ce qu'on appelle le football d'ailleurs, c'est tout ce qui n'est pas européen, concrètement, pour faire simple. Donc, on s'intéresse à tous les footballs, que ce soit du côté des Amériques, Nord et Sud, Afrique et Asie, et voilà, avec plusieurs rédacteurs, certains sur place, d'autres qui sont déjà allés et qui n'ont qu'une envie, c'est y retourner, et des choses comme ça.
Voilà, et là, attention, hein, c'est pas juste quoi, du tweet de trois lignes. Hein. Là, il y a une grosse enquête. Moi, je me souviens avoir lu un dossier complet sur la Copa Libertadores, les enjeux et tout. Non, franchement, c'est du beau boulot, c'est pas mal. Nicolas, alors vous êtes évidemment parfait pour parler de tout ça. On va démarrer avec vous en parlant de trois pays, Argentine, Chili et Brésil. Mais sur Brésil, on connaît déjà plein de choses, de Flamengo Fluminense, les grands derbys, bon. Mais il y en a d'autres...
Les grands classiques.
Voilà, les derbys classiques, on va dire. Mais il y en a d'autres qui sont moins connus et qui pourtant, Simon, méritent quand même qu'on s'y penche.
Exactement. J'imagine que quand on parle Brésil, là, on avait envie de grandes plages, de Caipirinha sur la plage à Rio, et bah, pas du tout. Enfin, vous emmenez là, on va vous emmener d'abord au sud, à Porto Alegre. Alors, il y a la plage aussi, mais c'est pas celle de Rio, il fait un peu plus froid. On est vraiment là, dans le sud du Brésil, la partie presque argentine. Là, je vais en vexer du côté brésilien.
Ouais, c'est le Nord-Pas-de-Calais du Brésil, Porto Alegre.
À l'inverse, exactement. Ouais. Ça partage la culture gaúcha, c'est-à-dire le maté, enfin voilà, toute une partie de la culture de cette région-là. Et on va parler des deux clubs de la ville de Porto Alegre, c'est-à-dire le Grêmio et l'Internacional Porto Alegre, qui forment le, très original, le Grenal. Le Grenal, c'est le troisième derby le plus vieux du Brésil. Rien que ça, c'est un des plus grands derbys du Brésil qui les oppose. Et c'est un derby qui est centenaire. C'est des clubs qui sont historiques. Le Grêmio est apparu avant l'Internacional en 1903, l'Internacional après. Et c'est là que débute la rivalité, c'est-à-dire que le Grêmio... On est au sud du Brésil, hein. Il y a une grosse immigration allemande. Je sais qu'il y a des blagues faciles à faire sur l'immigration allemande dans le sud du Brésil. Et les clubs, à l'époque, au début du...
Ouais, attends, précise qu'il y a une grosse immigration allemande en Amérique du Sud avant la Deuxième Guerre mondiale.
Exactement, j'allais le dire. Voilà. Au début du XXe siècle, on est en 1903.
Pas que à la Grêmio, fin.
Voilà. Il y en a eu un peu après, mais...
Ouais. Il y en a eu un peu après, mais là, voilà, ils ne sont pas encore là. Il y en a eu, mais ils ne sont pas encore là. Et à ce moment-là, l'immigration allemande forme des clubs comme le Grêmio et refuse que les non-allemands fassent partie de ces clubs. Donc en 1909...
Ah. Donc les fondateurs ont dû se retourner dans leur tombe quand ils ont vu Ronaldinho, alors.
Ah ben on va y venir, c'est l'histoire du Brésil, tout ça, c'est le grand métissage. Et donc justement, ce grand métissage fait qu'il y a beaucoup d'immigration quand même à Porto Alegre. Il y a des Italiens, il y a d'autres peuples européens et tout ça, tous ces gens se sont exclus, ils ne peuvent pas aller dans les clubs comme Grêmio et donc ils vont fonder quelques années plus tard, en 1909, l'international Porto Alegre pour en appuyant sur le côté international, eux, et pas seulement allemand. Alors encore aujourd'hui, voilà, on est dans le sud du Brésil, donc il y a des problèmes de racisme. Le racisme, par contre, c'est un problème qui est plus général au Brésil, mais c'est vrai que dans le sud du Brésil, il est un peu plus concret. Et encore aujourd'hui, il y a des problèmes de racisme avec le Grêmio, malheureusement. C'est un club qui dans lequel, un des rares clubs dans lequel on entend des bruits de singes hein, dans les tribunes. C'est assez rare au Brésil, mais il y en a. Après, on ne peut pas non plus dire que c'est seulement Grêmio. C'est un problème plus général.
Ça veut dire qu'ils ont gardé cette identité d'entre-soi du début, en fait.
Exactement, malgré les joueurs de couleur, on est dans le sud du Brésil qui est très blanc, hein, faut le dire quand même, il y a des gens de couleur, hein, voilà, vous l'avez dit, hein, Ronaldinho Gaúcho en est un exemple, et c'est pas vraiment une idole à Grêmio, hein, Ronaldinho Gaúcho, quand il est parti au PSG, ça a été très mal vécu par les supporters du Grêmio, et aujourd'hui, c'est une idole du club du bout des lèvres. Hein. Ce n'est pas vraiment une idole, mais ça sera quand même une idole rien pour en 99 dans une finale du championnat gaúcho, parce qu'au Brésil, c'est un État fédéral, il y a des championnats d'État, et il y a une grande suprématie, hein, un grand enjeu de suprématie sur les États pour tous ces clubs-là. En finale du championnat fédéral, t'as Ronaldinho en 99 qui détruit l'international lui tout seul, hein, il est tout jeune, et qui notamment va passer un dribble humiliant à un certain Dunga, qui sort quand même de deux finales de Coupe du Monde. Et oui, exactement. Mais alors là, je vous invite, hein, chers auditeurs, les amis, à aller sur YouTube et taper Ronaldinho Chapeuzinho, c'est le nom du dribble, face à Dunga en 99. Il fait passer la balle derrière son pied d'appui, il l'a fait revenir. Ensuite, je crois même que ça passe en petit pont. Enfin, c'est totalement humiliant. Et il marque en plus ce but de ce derby-là. Enfin, voilà, ça, c'est le genre de trucs qui font l'histoire de ces derbys-là. Et c'est des derbys qui encore aujourd'hui vivent. On l'a vu cette année, là, en 2020, avant que les compétitions s'arrêtent. En 2020, il y avait la Libertadores, comme tous les ans. Et le Grêmio et l'International se sont retrouvés dans le même groupe. Il y a eu le premier match de la phase de groupe qui s'est joué entre eux. Enfin, c'est peut-être pas le premier match, mais en tout cas, il a eu lieu. Et je vous le donne en mille, ça a terminé en pugilat, baston général à la fin du match. Donc même, voilà, entre les joueurs aujourd'hui, on dit parfois en Europe que les derbys n'ont plus autant de valeur sur le terrain parce que les joueurs ne sont plus du cru. Là-bas, même, ils sont pas encore tous du cru, mais même en n'étant pas du cru, ils le vivent, le derby, et c'est vraiment, vraiment, vraiment tendu. Après, voilà, il y a toutes ces violences-là autour du terrain. Après, on peut
pas... Alors, pour revenir à notre, au cœur de notre débat, est-ce qu'il y a un truc que les supporters de l'International envient au Grêmio et inversement ?
Ronaldinho, par exemple. C'est assez bizarre, mais l'International respecte beaucoup plus Ronaldinho que le Grêmio respecte Ronaldinho. Ça, c'est une première chose.
Les grands joueurs de l'International, il y a eu Forlan,
Forlan, c'est sur la fin de carrière. C'est pas, oui, c'est une idole, mais c'est sur la fin de carrière. Non, les vraies idoles de l'International, c'est Falcão, le milieu de terrain des années 80, la AS Rome, voilà, le Brésil de Tele Santana. Quelqu'un, ça va rappeler des souvenirs des Falcao. Supporters.
Paulo
Roberto, exactement.
Pas l'autre, quoi.
Exactement.
C'était un joueur fantastique. Hein. Je ne sais pas si les plus jeunes qui nous écoutent s'en souviennent.
Avec sa grande crinière blonde. Ouais. Avec sa grande crinière blonde. Et juste un petit souvenir pour des supporters marseillais. Et pour eux, il me semble, Fernandão
qui était mort dans le...
Exactement, et qui on va rendre hommage parce qu'il est mort dans un accident d'hélicoptère.
Le pauvre, il était surnommé Fernandel à Marseille.
Ouais, bah c'est très peu de respect pour l'idole que c'est à l'International. Vraiment, c'est vous.
Cela dit, à l'OM, il n'a pas non plus été exceptionnel.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Non, il n'a pas été exceptionnel, mais c'est vrai qu'au Brésil, France, je crois même. Est-ce qu'il n'avait pas gagné la Copa Libertadores avec l'International?
Exactement, voilà. C'est
je me souviens, après Marseille d'ailleurs, après Marseille.
Oui, après Marseille.
Après son passage à Marseille.
D'ailleurs, il y a une super fresque, je crois, au stade là-bas. J'avais vu ça dans un reportage, il me semble, après sa mort.
Toi, quand tu faisais du repérage pour l'OM et que tu allais un peu regarder l'Amérique du Sud, les joueurs, tu n'étais pas allé à Porto Alegre, Eric ?
Alors, j'ai vu Ronaldinho sous le maillot du Grêmio. Je l'ai vu, alors je ne sais plus contre qui.
Et là, tu t'es pas dit de le ramener à l'OM ?
Ouais, non, mais alors, écoute-moi, il était déjà intouchable. Tout le monde savait qu'il partait en Europe et qu'il était intouchable. Mais par contre, on en parlera tout à l'heure quand on parlera de l'Argentine. J'ai assisté à un match Independiente Boca. J'ai jamais vu ça de ma vie. L'ambiance de haine qu'il y avait ce soir-là dans le stade, j'ai jamais vu que ça de ma vie. Je sais pas si c'est un grand derby là-bas en Argentine, je me suis pas rendu compte, mais par contre, c'était quelque chose de assez terrible.
Ah bah là, c'est Nicolas, le spécialiste.
Ouais, voilà. L'Argentine, c'est plutôt Nicolas.
Ah, ouais, non, mais c'est pour ça, on en parlera tout à l'heure.
Nicolas, bah vas-y, enchaînons, Nicolas, Independiente. Bah, de toute façon, Buenos Aires, il y a 50 derbies tout le week-end, en fait. Donc,
Il était bien, Eric, là-bas.
Ah bah la liste est non exhaustive. C'est un choc entre grande Argentine, Independiente Boca, et ils luttent sur tous les plans. C'est aussi une lutte pour savoir, enfin pas pour savoir, pour être le plus grand vainqueur de la Libertadores en termes de nombre de titres. Boca court après Independiente, et oui, la rivalité elle est incroyable, mais bon, elle est pas non plus. C'est une rivalité entre.
La nature est différente de la rivalité avec River.
Ah bah la vraie rivalité pour Boca, c'est Boca River.
Ouais.
Et pour Independiente, la seule rivalité, enfin la seule, pas la seule, mais la vraie de ces vrais, c'est Racing, qui est à 200 mètres. Les deux stades sont à 200 mètres l'un de l'autre, du toit de l'un. Voilà.
Alors qu'est-ce que ça doit
donc
être
ils ont le vrai ennemi, mais ils ont des faux avec qui c'est très fort quand même.
Bah en fait, ils ont le grand rival, on va dire le rival absolu. Et ensuite, il y a des rivalités entre géants, il y a des vraies rivalités. Mais si tu vas voir un mec d'Independiente, son seul ennemi, c'est Racing. C'est son ennemi numéro un, l'ennemi public numéro un pour le supporter Lincha d'Independiente, c'est Racing. Les deux stades sont à 200 mètres l'un de l'autre, c'est le même quartier. Voilà, là, ça dépasse tout. Et oui, pour répondre à.
Et qu'est-ce qui fait qu'on est de l'un ou de l'autre? C'est juste le fait d'être né dans le quartier, c'est quoi?
Ouais, généralement, c'est un peu. Enfin, généralement, il y a l'héritage du quartier. Alors là, quand t'as 200 mètres d'écart, je vais dire qu'il y a aussi beaucoup l'héritage familial.
Familial, ouais.
Ça joue un vrai rôle. Après, les clubs ont un vrai ancrage dans leur communauté. Donc voilà, c'est un ancrage communautaire dans le bon sens du terme. Même si bon, ça entraîne des dérives aussi parce que c'est très très cloisonné. Mais non, les raisons, ouais, généralement c'est familial et quartier, familial.
Alors, tu voulais nous parler d'un autre derby dont on parle assez peu, finalement, c'est celui de Rosario. Donc, c'est la deuxième grande ville d'Argentine.
Alors, par contre, pour le coup, si tu cherches la ville du foot, le cœur du football en Argentine, c'est pas Buenos Aires. Je suis désolé pour les supporters de Boca et de River et d'Independiente, du Racing, etc. Mais c'est Rosario et tous ceux qui
ont... Mais ça, tu sais, ne dis pas ça d'une phrase comme ça, parce que tu vois, il faut l'expliquer, parce que ça paraît presque...
Rosario, c'est la ville de Messi et de Bielsa.
Je sais, mais comme il l'a dit, on a l'impression qu'il exagère et tout, tu vois. Moi, j'ai envie de le comprendre, vraiment, parce que pour moi, t'as dans un pays où t'as Boca, River, Buenos Aires, et on me dit, mais non, mais le cœur du foot argentin, c'est pas là, c'est à Rosario. Moi, j'ai besoin de comprendre, quoi.
Alors en fait, c'est une ville qui ne tourne qu'autour de ça, qui est divisée en deux, exactement, vraiment en deux. La ville est coupée en deux au niveau des couleurs, même dans la ville. Hein, c'est-à-dire que c'est vraiment le jaune et bleu de Central contre le noir et rouge de Newell's. Pour donner une idée, ces deux clubs-là sont arrivés avant Boca et River. Enfin, pas Newell's, mais Rosario Central arrive avant. Ce derby-là, ce classico-là, le classico rosarino, c'est le plus vieux d'Argentine. Le premier a eu lieu en 1905. Et Boca River, je cherche dans ma mémoire, le premier c'est 1913, le premier. Donc tu vois déjà il y a un passif en plus. Et cette ville là, c'est une ville particulière, Rosario en Argentine. Je veux dire, c'est déjà à la base, bon, on va dire c'est la ville du Che, ça on le sait. Mais c'est aussi dans cette ville là qu'a été créé le drapeau de l'Argentine. Et cette ville là, en termes, si on s'intéresse uniquement au football, il suffit de mesurer les gens qui sortent de Rosario. Tu parlais, Gilbert, de Bielsa et de Messi, mais moi je peux te rajouter Menotti, Kempes, Batistuta, Valdano.
Là c'est des noms, ça.
Ainze, Pochettino, Sensini, Ayala, par exemple.
Non. Le club du pape, c'est San Lorenzo,
ça n'a rien à voir.
Et pour vous,
c'est grand comment Rosario pour comparer à une ville française?
C'est grand comment? J'aurais du mal à te donner.
Je vais regarder la population. C'est pour avoir une idée, parce que tu vois, pour se faire une photographie de
1 200 000 habitants.
Ah oui, c'est gros, ouais, gros, grosse ville.
Coup, c'est par rapport à la France, des villes d'un million, voilà. Enfin, c'est une ville, une bonne ville française, je sais pas, je t'avoue.
Paris, un grand muros, c'est du million, au million,
c'est plus grand que Marseille, quoi.
C'est plus grand que Marseille, ouais.
Bon, bah voilà. Après, on est en Amérique latine, les distances sont différentes et la population va avec, il y a peut-être moins de villes, mais on se retrouve rapidement, c'est pareil au Brésil, en Argentine, avec des villes qui dépassent le million. Il y a plusieurs villes de plus d'un million d'habitants au Brésil.
C'est quoi, un Lyon, un truc comme ça?
Non, c'est Marseille, c'est un peu plus grand que Marseille.
C'est plus grand que Marseille, il y a moins de 1 million d'habitants, là c'est 1,2 million.
Voilà, et alors quand il y a le derby, là, ça doit être une dinguerie absolue alors.
Ah bah c'est une dinguerie absolue, alors là c'est pareil, Simon, vous parlez d'aller voir sur YouTube l'humiliation de Ronaldinho sur Dunga. Vous gardez votre navigateur YouTube, vous marquez Recibimiento Central US et vous préparez parce que ça va piquer. C'est une folie pure, hein. C'est deux stades incroyables. Donc il y a un stade maintenant qui s'appelle le stade Marcelo Bielsa, c'est celui de Newell's, et t'as le Gigante de Arrocito qui est celui de Central. Et dès qu'il y a un classico, c'est une folie. Il y a le Banderazzo qui est organisé, c'est un rassemblement des supporters la veille d'un classico. Ça donne des images absolument incroyables, c'est-à-dire que c'est un entraînement qui est organisé dans le stade de l'un des deux, hein, donc voilà. Et les supporters de cette équipe-là vont dans le stade est plein à craquer, ça y va à coups de fumigène, de feux d'artifice, d'ambiance incroyable, donc on a l'impression d'être déjà dans un match. Et oui, c'est des classicos incroyables. Et pour vous donner une idée par rapport à la puissance de ces deux clubs, l'importance de ces deux clubs dans la ville, on parlait de Boca River, il y a des supporters de Central ou de New West qui vont vous dire qu'un Boca River, c'est Disneyland à côté, quoi. Et cette ville-là, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle est l'une des rares dans toute l'Argentine, dans laquelle les deux clubs de la ville sont plus populaires que Boca et River. Il n'y a que quatre villes, hein, comme ça en Argentine. Donc,
Mais est-ce que c'est ambiance malsaine Parce que moi, j'ai vécu que ce fameux Independiente Boca, mais franchement, je me souviens, le gars avec qui j'étais m'avait dit il faut partir un quart d'heure avant la fête parce que ça sent la mort. Il m'avait dit ça comme ça. C'était vraiment, moi j'avais trouvé ça très malsain et pourtant je sais que tu vois ici et donc c'est pour ça, est-ce que c'est bon enfant ou est-ce que c'est malsain?
Bah écoute, je vais te faire une réponse entre les deux, je vais te dire un terme général, après je vais expliquer, je vais te dire c'est l'Argentine. C'est-à-dire que c'est tout l'Argentine et Rosario en particulier, c'est tous les excès. Donc c'est dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a un côté exceptionnel, il y a un côté magnifique, mais ça peut très très vite dégénérer. Les deux baras principales de Central et de Newell's sont parmi les plus durs du pays. Donc une fois que j'ai dit ça, je te laisse imaginer ce qui peut se passer. Ça a été très brutal dans les années 90. Il y a encore eu des morts. Il y a des morts, hein, de temps en temps. Je sais qu'il y a quelques années, alors j'ai plus la date exactement, mais t'as un exemple d'un gamin de Newell's, si j'ai bonne mémoire, un gamin, parce qu'il avait 13 ans, qui a été assassiné par les supporters de Central. Donc voilà, ça peut vraiment déborder. Parfois, ça a vraiment débordé. Il y a eu des classicos dans les années 90 arrêtés à cause de ça. Mais c'est l'Argentine. C'est-à-dire que t'as tous les excès. Tu le vois sur n'importe quel classico. J'ai envie de te dire, regarde la Libertadores Boca River. Le match aller, l'ambiance à la Bombonera est exceptionnelle. Le match retour n'a pas lieu parce qu'il y a des connards qui fracassent le quart de Boca, tu vois. Donc, ça peut déborder et c'est dans tous les sens. Mais l'Argentine, en matière de foot, même dans la société argentine, c'est le pays de tous les excès, dans tous les sens du terme, qu'ils soient bons ou mauvais.
Ah, ça donne pas super envie de se dire je vais aller me faire un trip football en Argentine.
Il faut le faire.
C'est
tout le délire de l'Argentine. Mais c'est quand même un cran au-dessus de ce point de vue-là.
Mais est-ce qu'il faut pas,
même par rapport au Brésil.
Mais justement, quand tu dois conseiller à quelqu'un de le faire, est-ce qu'il vaut mieux pas y aller avec des connaisseurs, entre guillemets, des mecs du cru, quoi?
Bah après, c'est pas des mecs du cru. Bon, si, peut-être. Après, tu peux y aller de toi-même ou avec quelques potes. À partir du moment où tu rentres dans une des deux hinchadas, tu vas vivre des grands moments, vraiment. Parce que je le disais tout à l'heure, mais c'est comme ça que fonctionne aussi un peu l'Argentine, où il y a des communautés qui se forment. C'est assez difficile, entre guillemets, elles se parlent pas forcément entre elles, mais quand toi tu rentres dans une, t'es dans une famille, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, il y a un côté vraiment. Et là, t'es porté. Moi, je me souviens on parlait d'Independiente Racing, je suis allé voir un match de Racing au Cilindro. Et ça, par contre, je le conseille à tous les gens, quel que soit le match. Ce stade est incroyable. Et franchement, tu vis des choses que tu peux pas vivre ailleurs. Et c'est difficile, ça paraît une phrase bateau, mais c'est inexplicable. Concrètement, tu as une espèce d'émotion physique qui te prend, et pour le coup, vraiment physique. Et et c'est inexplicable et c'est des choses à vivre, hein, vraiment. Et Rosario, c'est un cran au-dessus de tout ça parce que c'est toute la démesure. Et un jour de classico, je vais même pas te dire un jour de classico, je vais te dire les semaines qui précèdent un classico, la ville a déjà changé, quoi. Donc c'est vraiment voilà, c'est pour beaucoup, c'est vraiment le plus grand classico du pays.
En fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas si c'est génial ou si c'est inquiétant.
Allez voir des vidéos sur les ambiances dans les tribunes. Écoutez les gens qui... Moi, j'ai pas eu la chance hein, d'aller voir des matchs à Rosario, encore moins des classicos. Mais je sais que tous ceux que je connais qui sont allés voir soit des matchs à Rosario, soit même avec beaucoup de chance, parce que c'est difficile d'avoir des places pour un classico, ils s'en sont jamais remis dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'ils ont pris la plus grande claque de leur vie, quoi. Donc faut y aller. Allez voir les vidéos, c'est exceptionnel. Les ambiances sont exceptionnelles.
Juste petite histoire, puisque quand je vais voir ce match-là, je vais superviser. C'était Roland d'ailleurs qui m'avait envoyé à l'époque voir Gabriel Milito. Tu te souviens?
Ah oui, quand même.
Bien sûr.
Et donc ce match-là qui pour
Gabriel
moi,
Milito, c'est le défenseur. Hein.
C'est le défenseur
qui jouait.
Arrière-gauche ce jour-là, il n'y avait pas l'air moi en face, je ne sais plus la génération, vous connaissez mieux que moi. Et donc ce gamin, si je me souviens bien, il faudrait rechercher les dates de naissance, donc ça devait être 98-99, il devait avoir 17-18 ans. Putain, écoute, dans une ambiance, mais alors c'est moi ça m'avait marqué tellement que c'était malsain et que c'était, tu vois, c'est... Putain, il avait dégagé une 17 ans, il était monstrueux. Et je me souviens puisque Roland avait voulu le faire venir à l'époque et il voulait pas partir parce qu'il y avait une histoire de famille avec sa maman, il voulait pas quitter sa mère et d'ailleurs quand il vient au Barça, je crois qu'il revient vite au pays parce que il y a un problème comme ça, non les gars là, vous qui êtes des connaisseurs.
Gabriel Milito c'est plus je pensais que c'était plus des blessures qui avaient fait qu'il n'avait pas explosé.
Non, il part pas au départ, il part pas parce qu'il y a une histoire de famille,
et
il veut pas partir.
Il y a une histoire de famille aussi. Voilà. Ouais, et je sais plus bien. Mais...
Et je crois que ouais. Mais pour te dire, ce gamin, je crois qu'il avait 17-18 ans. Oh, putain, le match qu'il fait dans cette ambiance de guerre, ça m'avait impressionné comme il avait été fort et serein le gamin.
Mais c'est là que tu vois
j'essaie
que,
de trouver son âge d'ailleurs.
C'est là que tu vois que
il a 39 ans aujourd'hui.
Il est en 80.
Donc, il avait 17-18 ans.
Voilà, c'est ça, puisque c'était fin 98, il me semble.
Il part en 2003 à Saragosse. Oui, vas-y, gamins, Nicolas.
Ouais, les gamins qui s'imposent dans ces équipes-là ne sont pas des gamins comme les autres.
Ah ouais.
Pochettino, il sort de Newell's. Quand Bielsa le lance, il a 19 ans. Il le met en défense centrale. On a vu ce que ça donne derrière, quoi. Et tous les mecs comme ça, quand ils sortent jeunes, eux, ils sont, si le mec s'est imposé et est devenu un cadre à un âge précoce, il est prêt pour n'importe quel match européen derrière. Hein, au niveau du mental, après, il y a d'autres éléments qui vont entrer en jeu, mais au niveau du mental, on le bougera pas, le gosse.
En fait, nous, on se rend pas, des fois pas compte qu'un Argentin qui débarque dans le championnat de France, nous, on s'enflamme des fois sur une grosse ambiance, je sais pas, à Lens, à Marseille, mais les mecs, en fait, ça les fait bien marrer, eux, alors.
Parce que, ça fait souvent sourire quand on se demande si un Di Maria va supporter un OM PSG. Comme on vous dit, Di Maria, pour le coup, il vient de Rosario, il vient de Central. D'ailleurs, c'est tatoué sur son mollet. Oui, en effet, on peut sourire, Di Maria. Oui, je pense qu'il a même de résister et de subir quelque chose comme ça. Quand on se demande pareil pour Neymar, il a vécu des grands matchs avec Santos. Il a vécu des finales de Libertadores contre Peñarol. Donc là, on est en Uruguay. Alors voilà, des ambiances de dingue. Oui, non, à 17 ans, il a vécu ça. Ça lui fait pas peur.
Ouais, puis pas que les ambiances, parce que ça envoie les pieds aussi. Hein.
Alors, j'aimerais qu'on conclue.
Une question sur chaque joueur, là, toutes les stars argentines que vous avez citées. Je trouve qu'il y a une particularité que vous allez confirmer ou non. C'est ils sont tous attachés à un club, ouais. Une sorte de club de base.
J'ai l'impression. Ouais.
Tu vois, c'est le ils ont leur club, ils savent d'où ils viennent et tu sais, ouais. C'est le club où ils voudront ou
retourner peut-être.
Retourner un jour. Mmh. Mais exactement. Tous quand ils viennent en Europe, ils sont marqués. C'est comme s'ils ont le tampon d'un club.
Oui. C'est ça. On en revient à la notion d'identité. Et tu vois, par exemple, Eric parlait de Gabi Milito. Lui, il est Independiente à fond.
Et son frère, non ?
Son frère, c'est Racing.
Ah ouais.
Son frère est directeur sportif au Racing maintenant. Et ils sont vraiment marqués. Oui, et c'est dans l'ancrage et c'est dans tout ce qu'on disait au départ. Ça touche aussi les gamins. Le Paredes au PSG, c'est Boca, point. Et voilà.
Il y a des histoires de transfert un peu houleux, ou des mecs qui étaient d'un club qui rentrent en Europe et qui reviennent dans un autre club derrière et où ça fait embrouille, ça existe.
Ça arrive souvent. Alors Simon vous le dira, ça arrive au Brésil, en Argentine ça arrive pas tant que ça,
Au Brésil, par exemple, pour vous parler de Rosario, par exemple, même de joueurs qui ont joué dans les deux clubs, on en a eu un qui est arrivé l'année dernière en prêt à Newell's. C'était le premier à avoir fait les deux clubs depuis plus de 17 ans. On était 2019, non, depuis 92, depuis 94, pardon. Ça fait pas 17 ans, ça fait plus, ça fait 27 ans.
Il y a eu que 17 mecs qui ont moins que ça, quand même. Au Brésil, c'est moins fort que ça. Depuis les années 90, il y a quand même un panel énorme de joueurs qui ont pu jouer pour les uns et les autres. J'en pense à un énorme, hein, Romario. Il a fait les quatre clubs de la ville. Fait Botafogo, mais voilà, il a été, c'est une idole à Flamengo, c'est une idole à Vasco.
Il est passé
rapidement à Fluminense. Les Carioca le respectent. Voilà, ça fait grincer des dents à certains moments, etc. Mais c'est relativement respecté. Récemment, quelqu'un qu'on connaît bien en France, Fred. Fred, il est parti, qui est donc de Belo Horizonte, dans le centre du pays, et est arrivé à l'Atlético Mineiro. Il a été formé au Cruzeiro. Il est revenu à l'Atlético, il a fait Fluminense, Lyon, etc. Il est revenu à l'Atlético Mineiro, puis il est repassé à Cruzeiro. Il serait capable de revenir à l'Atlético Mineiro. Non, il est reparti à Fluminense, mais voilà, ça vanne. Au Brésil, ça vanne. C'est moins viscéral comme ça, violent, qu'en Argentine. Au Brésil, on est dans la vanne. On peut en parler, on peut se vanner sans que ça parte aussi rapidement en crise sanguine comme en Argentine.
C'est moins excessif.
C'est excessif dans un autre sens. C'est un peu caricatural, mais au Brésil, on est plus dans la festivité du football.
Les gars, on voulait aussi parler d'un derby de dingue à Santiago du Chili entre Colo-Colo et la U. Mais là, malheureusement, on n'a plus le temps. Donc, on le fera une autre fois. Hein. Mais c'était super passionnant. Voilà, exactement.
Non, mais c'est super.
Ouais, c'est sympa. Mais on retrouve sur Lucarne Opposé, si vous voulez, toutes les histoires du foot sud-américain.
Avec plaisir.
Donc, n'hésitez pas. Merci Simon, merci Nicolas.
Merci de rien, les gars.
Et bonne soirée.
Salut, les gars.